Voilà, nous avons commencé notre travail par une prière à Marie, et c'est peut-être l'occasion de redonner quelques éléments d'anthropologie chrétienne, parce que je pense qu'il est important de savoir, de redire un peu le lieu à partir duquel nous parlons. Et si je vais dire un certain nombre de choses, c'est parce que je m'enracine dans une anthropologie chrétienne, judéo-chrétienne. Et je suis donc référent à la parole de Dieu, à travers la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'homme. Et c'est très important parce que, vous savez, dans ces techniques et dans ces méthodes énergétiques, il est souvent question de la maîtrise de la respiration. Hein, on essaye de maîtriser la respiration. Dans certaines techniques de pranayama, nous y reviendrons peut-être, pranayama qui est le yoga respiratoire, on va essayer de capter les énergies qu'il y a dans l'air, le prana qu'il y a dans l'air. Donc, le mot même de respiration, quand on dit « je respire », il y a quelque chose à l'intérieur même de ce verbe « respirer », une racine latine qui est « spirare ». Et cette même racine va donner « spiritus ». C'est dire déjà que à l'intérieur même de notre langue, eh bien, le mot esprit et le mot respiration sont comme connexes. Et c'est très important parce que précisément, on va voir comment nous sommes constitués. On voit dans la Genèse que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu à partir de la matière du monde. Hein. Dieu a pris la matière du monde, il a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance, et il lui a insufflé dans les narines une haleine de vie, et il est devenu, nous dit le texte, une gorge vivante, ou un être vivant. Les Hébreux parlent de gorge ou de nefesh, parce qu'ils sont toujours très concrets. Le mot âme étant un mot qui nous vient des latins et des grecs, et qui est moins concret que le mot gorge. La gorge étant le lieu du passage, le passage de l'air, le premier acte autonome d'un enfant quand il sort du ventre de sa mère, eh bien c'est de capter la matière du monde, l'air, et pour la première fois, il va pousser un premier cri d'autonomie, qui est donc le cri du souffle. Et incessamment, ce souffle va l'habiter de son premier jour jusqu'à son dernier souffle. Or, c'est très intéressant de considérer notre langue française. La langue française est une belle langue. Hein. Vous pouvez dire « j'inspire » et « j'expire ». Vous pouvez dire « j'expire » à la forme active. « J'expire », on peut le dire au présent. Et quand vous dites « j'expire », déjà, vous dites autre chose. Quelqu'un qui a expiré, c'est quelqu'un qui meurt, qui rend le souffle d'une certaine manière. Et vous pouvez dire « j'inspire », mais vous pouvez dire aussi « je suis inspiré ». Donc on peut conjuguer la forme du verbe « inspirer » à la forme passive « je suis inspiré ». Alors la question qui va derrière, mais qui nous inspire ? Eh bien, c'est peut-être la question que nous allons essayer d'aborder ce soir. Qui nous inspire ? Or, être inspiré, c'est être inspiré par quelqu'un d'autre. Inspiré de Dieu, c'est nous recevons la vie du souffle créateur en Dieu. Et ce souffle est quelque chose sur lequel nous n'avons pas la propriété. Nous ne sommes pas propriétaires ni de notre premier souffle, ni de notre dernier souffle. Encore que maintenant, vous voyez que ces questions, sur le plan éthique, sont extrêmement contestées. Hein. On va essayer de toucher aux deux extrémités de la vie, du premier souffle au dernier souffle. Ce sont donc des questions extrêmement profondes et qui s'enracinent dans une anthropologie biblique. Alors, l'homme, et nous partons de ce postulat, est un être inspiré, créé avec la matière du monde. Il est l'Adama, Adama qui veut dire la terre, il est le terreux, le glébeux, mais il est plus que ça. Il est plus que cette terre, puisqu'il est insufflé par le souffle de Dieu. Et c'est là où nous avons deux perspectives différentes en fonction donc de l'Orient et de l'Occident. Pour, en tout cas, plus exactement, en fonction de ce qui nous vient d'une conception orientale et ce qui vient d'une conception judéo-chrétienne basée sur les Écritures. Parce que l'Orient va s'attacher à essayer de maîtriser et de capter les énergies, alors que nous essayons de nous laisser inspirer par le souffle. Et ce souffle va traverser toute l'histoire de la Bible. C'est lui qui va insuffler tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est lui qui va insuffler tous les patriarches et tous les sages d'Israël. C'est le même souffle que l'on va retrouver le jour de la Pentecôte. Hein ? Le souffle saint qui vient inspirer les apôtres. Donc ce souffle, vous voyez, soit est quelque chose que l'on reçoit de manière gratuite, comme une grâce permanente venant de Dieu, si nous nous situons dans une tradition judéo-chrétienne, soit nous essayons d'en maîtriser les effets et l'énergie à l'intérieur de souffle à travers le prana, et nous sommes là dans une conception plutôt de type oriental. Or, précisément, dans la tradition judéo-chrétienne, le monde est créé. Dieu a créé le monde. Dans un commencement, Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide. Il y a donc un point de départ et un point d'arrivée. Ça veut dire que le sens de l'histoire a un sens, il a une orientation. Comme chacune de nos vies a un sens, un point de départ, nous recevons le souffle à notre naissance et nous allons le redonner à notre mort. Mais dans une perspective énergétique orientale, il n'y a pas de début ni de fin. Nous nous situons dans une sorte de monisme où il n'y a pas à recevoir le souffle de quelqu'un qui nous aurait créé, puisque à l'intérieur même de la conception du monde et du cosmos, eh bien, Dieu est présent. En tout cas, ce n'est pas un Dieu personnel comme dans la révélation judéo-chrétienne, c'est une énergie cosmique qui gouverne à l'énergie du monde. Donc, alors, nous avons commencé par une prière mariale. Eh bien, c'est très important et très intéressant de nous resituer par rapport à Marie, toujours dans cette dynamique, parce qu'elle, plus que quiconque, a reçu le souffle. Elle a reçu le souffle en son sein. Elle l'a tellement reçu de manière pure et transparente qu'elle a enfanté le Christ. Par conséquent, vous voyez, il est toujours très important d'aller voir ce que nous disent les textes bibliques, et c'est à cette référence-là que nous ferons toujours appel pour essayer de discerner ce dont nous allons parler ce soir. Or, dans un commencement, Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide, tohu vav bohu, et souffle de Dieu planait sur les eaux. Or, il se trouve que nous sommes incroyablement conformes. Nous sommes créés dans cette incarnation de la parole de Dieu. Le souffle, notre souffle, est lié à notre diaphragme. Hein, tous ceux qui ont travaillé un peu sur la respiration savent que le diaphragme est l'élément essentiel de ce souffle. Or, le diaphragme sépare le thorax de l'abdomen. Et le diaphragme est constitué de deux hémicoupoles qui font exactement ce mouvement. Hein. Quand les ailes de notre diaphragme s'abaissent, l'air est inspiré. Quand elles se soulèvent, l'air est expiré. Par conséquent, nous sommes dans ce mouvement perpétuel d'accueil du souffle et ensuite de ressouffler l'air qui nous a réénergétisé d'une certaine manière. Mais vous voyez, ce mouvement, c'est le mouvement de l'oiseau. Et le bassin, notre bassin, est un nid. C'est un véritable oiseau sur un nid. Hein ? Donc, est-ce que nous laissons déposer cet oiseau qu'est notre respiration dans le nid ? Paisiblement. Parce que dès qu'il y a stress, eh bien l'oiseau, si vous voulez, d'une certaine manière, s'affole. Et nous avons une respiration plus tendue, plus avec le cou, plus avec les scalènes, qui sont des muscles qui viennent nous submerger d'une certaine manière. Alors, prenons-nous le temps de laisser descendre le souffle en nous-mêmes. Alors la question qui va derrière, c'est est-ce que c'est une technique ? Eh bien, je ne crois pas que ce soit qu'une pure technique. Parce que chacun d'entre nous avons besoin d'être bercé. Et Dieu sait si notre monde est de plus en plus dur à cet endroit-là. Toutes les mamans savent, et les papas aussi, combien l'enfant a besoin d'être bercé. Et chacun d'entre nous avons aussi besoin d'être bercé. Et d'une certaine manière, eh bien, c'est par le souffle et la présence de la maman qui va chanter et qui va cantiler des choses extrêmement douces que l'enfant va pouvoir se reposer et être en confiance. Finalement, se reposer et rentrer dans le repos. Nous avons besoin de ce repos. Et aujourd'hui, notre monde est extrêmement dur par rapport à ce repos. Nous avons brisé aussi le temps. Il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de soir, plus de nuit. Vous voyez, les rythmes s'accélèrent. Où est notre repos ? Précisément, dans la Genèse, il est question d'un repos. Le septième jour, après que Dieu ait créé le monde, il l'a créé en vue du repos. Et il propose ce repos aux hommes. Et nous sommes incessamment, aujourd'hui, dans une hyperactivité et nous ne pouvons plus nous reposer. Alors nous allons chercher des techniques et des méthodes et des trucs qui vont nous permettre de trouver une certaine tranquillité, une certaine paix, alors que peut-être elle est beaucoup plus proche, beaucoup plus gratuite et beaucoup plus simple que toutes les techniques que nous allons chercher au loin. Alors, vous voyez, cette histoire de la respiration, cette histoire de repos, sans doute que Marie nous donne encore une fois le chemin, mais d'une manière extrêmement discrète. Vous savez que les paroles de Marie et tout ce qui concerne Marie dans l'Évangile est extrêmement... Enfin, c'est peu de paroles, mais que de paroles essentielles. Et le cri de joie, d'une certaine manière, de Marie, c'est le Magnificat. Et le Magnificat, c'est mon âme. Je disais tout à l'heure, ma gorge. Le lieu du passage de l'air, de la nourriture et de la parole, c'est-à-dire de la mise en relation. Mon âme exalte le Seigneur. Toute son âme, toute sa gorge est là pour exalter Dieu. Un Dieu qui est tout autre. Un Dieu qui est créateur. Et un Dieu qui est sauveur en Jésus-Christ. Et donc mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, mais esprit, nous avons vu tout à l'heure, c'est spiritus, c'est pneuma en grec, et c'est ruach en hébreu. On peut dire que Marie dit, et mon souffle, ce rythme, en Dieu mon sauveur. Par conséquent, Marie nous indique le chemin d'une juste relation entre notre corps et cet esprit créateur, qui vient nous donner toute sa paix et son repos. Donc, je pense qu'il était important de resituer, vous voyez, ces techniques dont nous allons parler, qui vont essayer de chercher à l'intérieur même de la création les énergies du cosmos, et pour un chrétien, ce qui est de l'ordre de l'accueil d'un souffle qui le dépasse et qui le crée.